Mais ça ira mieux comme ça. Bonjour à tous. Bonjour à tous les lève-tôt. C'est magnifique de vous voir si tôt à la paroisse. Je veux dire qu'à 9h, on tremblait un petit peu. Il y avait peut-être 15 personnes quand Mélanie a fait l'introduction. Et à 9h05, la salle est pleine. Donc c'est magnifique. Et on veut ensemble vivre et continuer ce culte dans la réception de ce que Dieu a nous donné. Si tu peux montrer le diapo, s'il te plaît. J'aimerais faire qu'on fasse ensemble une proclamation à vous tous, les lève-tôt. Qu'on puisse se lever et dire « Toute ma vie, à chaque saison, tu restes Dieu. » À chaque saison, tu restes Dieu. Je choisirai de chanter, je choisirai de t'adorer. Nous sommes au début de l'année 2020. Nous sommes encore au début. Bonne année à tous. Et dans cette année, il y a plein de saisons que nous allons vivre. Nous sommes en hiver, il y aura le printemps, l'été, l'automne. Et dans nos vies, il y a différentes saisons aussi. Et je trouve important qu'on puisse proclamer au début de cette année que Dieu est Dieu à chaque saison. On ne sait pas les saisons qui vont arriver. Il y aura des bonnes choses, il y en aura des moins bonnes. Mais dans chaque saison, nous voulons simplement affirmer que Dieu reste Dieu et que nous choisissons de le chanter et de l'adorer. Prions tous ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu es aujourd'hui au début de cette année et ce que tu vas être tout au long de cette année. Nous nous mettons devant toi et nous choisissons de t'adorer, de te servir, de te suivre à chaque moment, à chaque saison. Et Seigneur, fais-nous la grâce de pouvoir le faire, de pouvoir le vivre. Nous savons que ce n'est pas toujours si simple, mais donne-nous par ton esprit la force intérieure pour toujours choisir de regarder à toi. Dans le nom de Jésus, ton Fils. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Une des clés pour vivre à chaque saison, ce choix de suivre Dieu et de regarder à lui et de lire le best-seller de l'année, c'est la Bible. On peut le dire au début de l'année parce que chaque année, c'est le best-seller. C'est le livre qui est le plus vendu dans le monde. En général, ce n'est pas dans les statistiques parce que ça les embête de mettre la Bible à chaque fois. Mais si on prend l'ensemble des livres qui sont vendus ou donnés, la Bible est au début. Alors imprégnez-vous de ce best-seller. Lisez-le, que vous lisiez 4 mots chaque jour ou 4 chapitres, c'est un peu égal tant que vous méditez, tant que vous recevez. Parce que cette parole va façonner votre cœur, cette parole va continuer d'imprégner votre système de pensée, va vous donner la foi et l'espérance dans ce que vous traversez. Alors lisez, ouvrez la Bible et méditez-la. C'est ce que nous allons faire ensemble ce matin, l'ouvrir et nous imprégner de ce qu'il y a là. Nous parlons de l'Église en prière. Et ce matin, j'ai envie de parler de l'Église en prière, mais l'Église entre 2 dimanches, ou entre 2 réunions de prière. Dimanche dernier, Mwanza nous a encouragés à parler de l'importance de l'Église en prière, en mode, on va dire, réuni. Lorsque nous sommes ensemble, comme ce matin, lorsque nous sommes ensemble mardi soir. Et c'est des moments importants parce que lorsque nous sommes ensemble, il y a des choses qui se passent qui ne peuvent pas se vivre lorsque nous sommes dispersés. Et ce matin, je vais prendre un autre aspect de l'Église en prière, c'est celui où nous sommes dispersés. C'est-à-dire où nous sommes chacun répartis dans cette région, là où nous travaillons, où nous habitons, où nous courons, où nous marchons. Et l'Église en prière en mode dispersé est tout aussi importante que celle en mode réuni. Et donc ce matin, je vais davantage parler de cette dimension où nous sommes disséminés dans cette région pour être témoins de Christ. Et nous sommes disséminés, nous restons l'Église. Le lundi matin, je suis l'Église, même si je suis à Confignon ou à Vieux-Seux ou ici. Nous sommes l'Église en tout temps. Et il ne s'agit pas d'opposer ces deux choses. Je trouve que c'est bien moins de parler de l'Église en prière réunie, et je vais parler de l'Église en prière en mode dispersé. Et les deux sont nécessaires, les deux sont vitaux, les deux moments, les deux aspects font partie de ce qu'est l'Église. Je vais élargir un petit peu le mot prière dans ma prédication, dans le sens, je ne vais pas utiliser prière simplement lorsque je m'adresse verbalement à Dieu ou que je dialogue avec lui, mais plus dans le sens de la prière où ma vie est prière. Et dans ce que je vis, dans ce que je manifeste avec tout mon être, avec mes actions, mes pensées, mes réflexions, mes regards, c'est une prière à Dieu. Et là où vous êtes dans la semaine, vous êtes prière pour Dieu, alors que vous le suivez, alors que vous restez à l'écoute dans les interactions, dans les actions, dans les temps de prière que vous prenez. On va lire ce matin dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, et nous allons lire depuis le verset 16 jusqu'au verset 30. C'est au tout début du ministère de Jésus. Jésus vient d'être baptisé. Il a vécu ses 40 jours dans le désert où il a été tenté. Et ensuite, il débute son ministère. Il a déjà fait quelques actions, quelques miracles. Et il arrive à Nazareth. Et un jour de sabbat, il va à la synagogue. Et je lis là au verset 16 du chapitre 4. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Amen. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit, « Vous allez sans doute me citer ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même, » et vous me direz, « Fais ici, dans ta patrie, tout ce que, à ce que nous avons appris, tu as fait à Capernaum. » Il leur dit encore, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Je vous le déclare en toute vérité, il y avait de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque le ciel a été fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y a une grande famine dans tout le pays. Cependant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'elles, mais seulement vers une veuve de Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi de nombreux lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée. Et cependant, aucun d'eux n'a été purifié, mais seulement Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces paroles. Ils se levèrent, le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite, afin de le précipiter dans le vide. Mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. C'est incroyable. Vous imaginez ça? Cette fin d'histoire? Quel était le regard? Comment les regards se sont croisés? Il y avait toute la foule, enfin les gens de Nazareth, qui connaissaient Jésus. Ce n'était pas que Jésus était inconnu, ils l'avaient vu en tant qu'enfant. Ils l'avaient vu en tant qu'apprenti charpentier. Peut-être même plusieurs d'entre eux avaient une chaise, une table ou un lit qui avait été fait par l'atelier de Joseph et de Jésus. Donc ils se connaissaient. Mais là, tout à coup, les regards changent et il y a une haine profonde qui tout à coup surgit et se manifeste et il l'entraîne juste sur la falaise. Et d'une manière ou d'une autre, Jésus traverse. Quel est le regard de Jésus lorsqu'il traverse et qu'il s'en va? La Bible ne le dit pas. Alors, on peut l'imaginer, on peut le penser. Mais j'imagine personnellement la tristesse, la douleur et la compassion qui devait traverser le regard de Jésus. Mais c'est assez effrayant de voir comment ils n'ont pas pu recevoir Jésus, qu'ils connaissaient bien, ils n'ont pas pu recevoir le ministère de Jésus au milieu d'eux. Alors que Dieu appelle Jésus à révéler l'amour du Père, et qu'il commence, et là, en prenant cette prophétie d'Ésaïe 61, il atteste par la parole de Dieu cet appel sur sa vie et ce qu'il va faire en délivrant les opprimés, en, en libérant ceux qui sont coincés d'une manière ou d'une autre. Jésus est là, prêt à faire quelque chose. Cette histoire forcément me fait penser notamment à ce que nous vivons en communauté. Comment est-ce que nous accueillons au milieu de nous les ministères de ceux qui grandissent au milieu de nous? Nous avons plein d'enfants, nous avons plein de jeunes. Et moi, je suis réjoui de voir plusieurs jeunes ici, devenus de plus en plus adultes, qui exercent leurs dons, qui exercent leurs capacités, que ce soit en nous conduisant dans la louange ce matin, ou dans la présidence, ou d'autres choses. Il y en a beaucoup qui ont grandi là, qui font toutes sortes de choses. Mais gardons un œil attentif, afin de ne pas répéter ce que les gens de Nazareth ont fait. Et laissons Dieu appeler au milieu de nous des jeunes, des enfants qui vont faire des choses étonnantes par moments et qui vont nous déranger. Est-ce que nous voudrons les mettre dans le coin ici, pour dire vous faites juste ce que vous pouvez, mais dérangez pas notre manière de faire, les chaises elles restent toujours comme ça dans le culte. C'est très facile de dire ça. Vous vous souvenez du 20 décembre quand on a eu la fête de Noël? C'était magnifique tous ces enfants. Il y a quelques enfants qui sont venus là sur la scène et ils ont allumé la couronne de l'Avent. Tout le monde a trouvé ça magnifique, ces enfants qui mettent le feu à la couronne de l'Avent, enfin aux bougies, pardon. Mais vous savez quoi? Je vais trop vite. Ces enfants, certains d'entre eux, vont mettre le feu de Dieu dans la communauté dans quelques années. Est-ce qu'on est prêt à recevoir ce que Dieu donnera à ses enfants qu'aucun d'autre de nous aura reçu, mais ils mettront le feu d'une certaine manière qui pourra peut-être être dérangeante, mais qui poussera la communauté en avant, qui permettra au feu de Dieu d'attirer des gens à lui. Et j'espère qu'en communauté, dans les années qui viennent, quelles qu'elles soient, comme maintenant et encore plus, nous soyons à même d'accueillir ceux que Dieu lève au milieu de nous, avec des temps, des moments différents, avec des appels qui vont parfois nous contrecarrer ou nous ébranler ou nous déranger, mais laissons Dieu par son esprit nous déranger au travers de qui il appelle au milieu de nous. Amen. Amen. Seigneur, aide-nous. Parce que c'est si facile d'éteindre le feu que tu mets. Et malheureusement, nous voyons que les gens de Nazareth ont comme éteint le feu que tu avais donné. On se dit, mais comment? Seigneur, fais-nous la grâce d'accueillir ce que tu vas appeler, ce que tu vas désigner, petit à petit. Alors même qu'ils auront couru au milieu de nous, qu'ils nous auront dérangés parfois parce qu'ils auront fait plein de bruit, et en même temps, tu vas leur donner des choses précieuses qui seront une bénédiction pour l'Église, qui seront une bénédiction pour le royaume, qui seront une bénédiction pour Carouge et même bien au-delà. Seigneur, merci. Fais-nous la grâce d'accueillir ton feu au milieu de nous. Amen. Revenons à cette déclaration centrale de Jésus. Il y a trois choses importantes qu'il dit dans cette prophétie qu'il reprend d'Ésaïe 61. Premièrement, Jésus est là pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il est là pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Mais les pauvres, qui c'est? C'est pas juste ceux qui manquent de nourriture ou peut-être d'un logement. Oui, ça comprend ces gens-là. Mais dans ce que le texte nous dit, c'est les pauvres, c'est ceux qui sont en dehors du peuple de Dieu, de ce qui était convenu pour être un bon juif qui sert Dieu. Et il y avait plein de gens qui étaient en dehors de ça. Les malades, les démoniaques, parfois même les femmes, les enfants, et toutes sortes de personnes. Et Jésus vient et dit, j'annonce une bonne nouvelle aux pauvres. C'est que cette bonne nouvelle, elle est pour tout le monde, quelle que soit la condition humaine dans laquelle nous sommes. Et cette bonne nouvelle, elle est autant pour les malades que pour ceux qui sont possédés, que pour les femmes, les enfants, les esclaves, ceux qui sont proches ou loin de Dieu. Cette bonne nouvelle, elle est pour tous. Et Jésus vient et il annonce la bonne nouvelle à tout le monde. Et parce qu'effectivement, une fois qu'il est parti au ciel après sa mort et sa résurrection, et que le Saint-Esprit descend sur les disciples à la Pentecôte, et on voit le livre des Actes, et bien petit à petit, cette nouvelle, elle est pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Elle ne sera pas confinée à Jérusalem ou à la Palestine, mais elle est pour toute la surface de la terre. Et c'est ça, cette bonne nouvelle aux pauvres que Jésus annonce. C'est une délivrance globale et totale. Et le deuxième point, eh bien, c'est sur cette insistance du texte par rapport à délivrer, proclamer aux prisonniers la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés. Libres de quoi ? Délivrés de quoi ? Ben, dans un sens global, du péché. Libérés du péché, libérés de ce qui atteint la personne humaine ou la société humaine et qui la contraint ou qui la resserre ou qui lui fait vivre des choses qui sont contraires à la pensée de Dieu. Et Jésus vient pour annoncer une libération du péché et pour délivrer de cette emprise. Et c'est du péché, pas simplement le péché dans mon cœur ou dans ma relation à Dieu, mais c'est aussi du péché par rapport à la manière dont la société est organisée ou travaille, ou des choses ou des systèmes dans la société qui occultent en fait la pensée de Dieu, qui retiennent la libération de Christ. Et Jésus vient pour nous délivrer de tout cela. Et le troisième point, c'est qu'il proclame une année de grâce du Seigneur. Et dans ce langage prophétique, cette année de grâce du Seigneur, qui fait référence à différents textes dans l'Ancien Testament, et notamment dans Lévitique 25, en parlant du jubilé, qui était la libération de toutes les dettes, eh bien cette année de grâce fait référence à la vie éternelle qui nous est accordée. Une grâce éternelle qui vient de Dieu, et il nous apporte la libération. Nous ne sommes plus sous le joug du mal, mais nous sommes sous le joug de Dieu qui donne une libération pour l'éternité. Donc voilà ces trois points que Jésus annonce et qu'il va manifester dans son ministère terrestre et dans lequel il va engager ses disciples et puis l'Église. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, délivrer et annoncer une année de grâce du Seigneur. Voilà ces trois éléments qui sont des signes du royaume de Dieu, qui sont des signes pour l'Église réunie comme pour l'Église dispersée. Lorsque nous nous réunissons, il y a toutes ces choses qui se vivent aussi, où nous prions les uns pour les autres, nous nous encourageons les uns avec les autres. Et lorsque nous sommes dispersés, eh bien, les pensées qui nous habitent, les actes que nous pouvons entreprendre, sont des reflets de ce que Christ fait. Nous voyons dans ce texte que Jésus est à la synagogue. Et plusieurs fois dans l'évangile, on voit qu'il est à la synagogue. Donc il va tous les samedis. Il se réunit avec les gens de son peuple pour étudier la Bible, la Torah. Et puis on le voit dans la synagogue qu'il intervient, notamment en lisant, mais aussi à d'autres endroits, il va délivrer quelqu'un d'un esprit démoniaque, il va bénir d'autres personnes. Mais entre les temps à la synagogue, que se passe-t-il ? Eh bien, on voit Jésus sur les chemins de son pays. Et où il est arrêté par un père qui lui demande de venir prier pour sa fille qui est très malade, où il est arrêté par un officier romain qui lui dit « Est-ce que tu peux donner une parole afin que mon serviteur soit guéri ?» Où il est arrêté par une foule qui a faim et il organise un repas pour 5000 personnes comme ça. Ça, ce n'était pas à la synagogue tout ça, c'était en route, en chemin. C'est ça l'Église dispersée. C'est être en communion avec Dieu et se laisser habiter de Christ pour témoigner de l'amour dans toutes sortes de situations. Et vous êtes l'Église. Tu es l'Église là où tu es placé, dans ton entreprise, dans ta rue, dans ta maison, dans ton immeuble, dans la société dans laquelle tu fais partie. Et en étant Christ et en étant prière à Dieu au travers des actes que tu fais, tu témoignes de cette réalité du royaume. Libérer les opprimés. Comment le vivre ? Beaucoup d'entre vous travaillez dans une entreprise, une société, un petit business. Et je suis sûr qu'à différents moments, vous vous dites « mais ça c'est injuste » ou « on devrait faire comme ceci ou comme cela » ou « ceux-là sont mis de côté » ou « je suis mal considéré ». J'ai envie de vous encourager à un peu renverser la vapeur et vous dire, mais comment est-ce que je peux contribuer dans l'entreprise dans laquelle je travaille à ce qu'il y ait davantage de justice, à ce qu'il y ait davantage de considération de l'homme et de la femme. Peut-être qu'il faudra œuvrer, persévérer pendant des mois pour qu'il y ait certaines choses qui évoluent, qui changent. Mais là où vous êtes, que ce soit en tant que collaborateur, en tant que chef d'une équipe, d'un département, en tant que simple ouvrier, Je suis sûr qu'il y a des moments où vous pouvez être Christ et aider à ce qu'il y ait davantage de justice, aider à ce qu'il y ait davantage de considération de la personne humaine. Oh, ça sera probablement pas le paradis. Je ne me fais pas d'illusions. Nous sommes dans un système humain. Mais vous êtes là, vous avez été placé par Dieu pour être Christ là au milieu, pour être prière et manifester le royaume. On a entendu de nouveau, je ne sais pas, en fin d'année, dans les nouvelles, ces statistiques absolument horribles, des féminicides en Suisse. Il y a une femme tous les 15 jours qui meurt de violence conjugale en Suisse. Et cela ne prend pas en compte toutes les femmes qui ne meurent pas, mais qui sont bien maltraitées, torturées. Comment est-ce qu'on agit en tant que société? Comment est-ce qu'on agit en tant qu'Église? Comment est-ce que l'on fait? Peut-être qu'on n'a pas de prise là-dessus directement, bien qu'on puisse faire partie d'une association ou une autre qui prend la défense de ces cas-là. Et là aussi, les chrétiens ont leur place à jouer. Mais notre regard, à nous, hommes et femmes, notre regard sur la femme dans cette société, où on parle beaucoup de MeToo, mais comment est-ce que je fais moi? Comment est-ce que je regarde les femmes autour de moi? Comment est-ce que je les considère? Et trop souvent, notre société les considère comme des objets à convoiter, alors que nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, œuvrons à ce que cela soit de moins en moins le cas. Œuvrons à ce que nos regards soient purs et portent et considèrent l'être humain, la femme et l'homme sur un même pied, parce qu'ils sont tous les deux créés à l'image de Dieu. Ça, c'est aussi œuvrer pour le royaume. Et puis là, bien sûr, on est seul, parfois, bien souvent. Qui sait le regard que je porte? Dieu le sait. Dieu m'appelle à porter un regard saint, à porter un regard juste, à porter un regard qui honore. Et il peut m'appeler dans certaines situations à agir de sorte que je peux honorer les femmes. Il y a tant d'autres exemples que nous pourrions prendre sur la manière d'être prière dans la société, d'aider nos enfants à grandir. Peut-être qu'il faut passer des heures pour accompagner nos enfants pour les devoirs ou pour certaines étapes à vivre. Mais tout cela, c'est être à l'écoute de l'Esprit. C'est être disponible devant Dieu qui nous a confié des enfants et qui ne deviennent pas d'un coup des adultes, mais où il y a toutes sortes d'étapes à passer. Et nous avons besoin d'espérance pour accompagner, pour relever, pour aider, pour encourager. Peut-être encore une question. Si on s'engage résolument à vivre ces signes du royaume, est-ce que ça va être simple? En fait, vous savez la réponse. Mais parfois, le problème, c'est que depuis le devant de la scène, on dit toujours « Ah, mais ça va être extraordinaire ». Il y a des choses extraordinaires qui vont se passer dans l'ordinaire de notre de nos vies. Mais bien souvent, lorsqu'on s'engage, qu'on a une vision pour le royaume, qu'on a envie d'apporter quelque chose au travers de ce que nous faisons pour le royaume de Dieu, eh bien, il y a des obstacles. Il y a des contraintes, ou il y a des choses qui tout à coup vont complètement de travers, alors qu'on se dit, mais je vais faire ça pour aider, pour que Dieu soit manifesté. Oui, ben c'est la réalité sur notre terre. Et si j'ai lu tout l'épisode de Jésus là, qui donne cette prophétie qui s'accomplit pour lui, au début je me dis, ben, je vais juste lire la prophétie, ça sera déjà pas mal. Puis après je me dis, non mais je vais rajouter tout le texte, parce qu'on voit qu'il s'engage pour Dieu, mais finalement il s'en prend plein à la poire. C'était pas simple. Alors que c'était des gens, comme j'ai dit, qu'il aimait, qu'il connaissait depuis très longtemps, mais qui lui rentrent dedans, qui veulent l'empêcher de faire ce pour quoi il a été appelé. Et oui, il y a des obstacles. Il y a des choses difficiles, et parfois même de gens qui sont proches de nous. Néanmoins, Dieu nous appelle à regarder à lui, à en toute saison choisir de le servir et de l'adorer. Amen. Et c'est là que bien souvent nous avons besoin de l'Église réunie pour nous porter les uns les autres, pour nous encourager les uns les autres. Vous voyez, j'alterne entre l'Église réunie et l'Église dispersée. Dans les études bibliques, un des classiques qu'on lit souvent, c'est un petit livre qui reprend les lettres de frère Laurent de la Résurrection, qui est un homme qui a travaillé toute sa vie dans un monastère comme cuisinier au XVIIe siècle, et qui faisait la cuisine pour les moines, et puis qui allait aux offices de prière. Et en fait, il a écrit plusieurs lettres pour accompagner sa réflexion, et pour simplement souligner l'importance que ce n'est pas juste les moments d'office de prière qui étaient les plus cruciaux, mais que toute sa vie, même alors qu'il épluchait les légumes, eh bien, il y avait une reconnaissance et une contemplation de qui est Dieu. Et dans ce petit livre, il dit simplement que toute la vie est prière, pas juste les quelques minutes ou heures que je passe effectivement en prière, mais que pratiquer la présence de Dieu, elle se fait à chaque étage de la maison, que ce soit au garage, à la cuisine, à la chambre à coucher, au travail. Et j'aime beaucoup cette pensée, parce que souvent on fragmente nos existences, mais Dieu vient pour unir les parties de nos vies, et par l'Esprit, il nous aide à le faire. Vous êtes prêts en 2020 à continuer les œuvres du royaume, à continuer de vivre l'Église dispersée, à être l'Église à la rue et à l'adresse où vous êtes aujourd'hui ? Amen. J'aimerais vous donner une image pour terminer. J'aimerais prendre cette image en lien avec la prophétie dans Ésaïe 61. Donc Ésaïe 61, le prophète Ésaïe, quelques centaines d'années avant que Jésus vienne sur la terre, donne plein de prophéties qui sont répertoriées dans le livre Ésaïe de l'Ancien Testament. Et si tu peux montrer le verset 3, s'il te plaît, d'Ésaïe 61. Donc, au début d'Ésaïe 61, il y a le texte que Jésus a lu dans la synagogue. Et puis ensuite, au verset 3, cette prophétie d'Ésaïe continue et il dit, tout ça va se passer, d'être libéré, d'être délivré, pour mettre ou pour donner aux habitants de Sion au deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. Ça, c'est déjà extraordinaire. Voilà ce à quoi nous pouvons contribuer. Transformer le deuil en joie. Mettre des habits qui nous permettent de louer Dieu plutôt que de rester abattus par rapport à ce qui se passe. Et on les appellera alors térébintes de la justice, plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Térébinthe de la justice, dans d'autres traductions, c'est marqué chaîne de justice. Et c'est cette image du chêne que j'aimerais vous laisser. Une autre traduction, elle dit des arbres qui honorent Dieu. Et je trouve génial. Et de par qui nous sommes, de par ces signes du royaume que nous allons manifester, nous allons contribuer à planter des chaînes de justice. Enfin, à faire pousser des chaînes de justice. Parce que peut-être qu'on peut en faire pousser nous, mais souvent on vient, j'ai envie de dire, arroser une graine qui a déjà été plantée, qui a déjà poussé. Et alors que nous semons dans le royaume, que nous aidons les gens autour de nous, nous établissons des chaînes de justice, c'est-à-dire des arbres qui honorent Dieu. Nous nous encourageons les uns les autres à être des chaînes de justice au travers de l'encouragement que nous nous donnons. Un chêne, pour qu'il soit solide, ça prend des années. Il résiste au vent, il résiste au froid, il résiste au soleil, il résiste à des tempêtes, mais année après année, il va donner un feuillage. Année après année, ce feuillage va se refaire. Et il grandit, il devient solide. Ça ne se fait pas d'un coup, mais quand on a pu admirer un beau chêne, on voit cette solidité, on voit cette beauté, on voit cette durée. Et c'est à cela que Dieu nous appelle, à durer pour lui, à être établi en lui, avec des racines qui vont profondément dans la terre, dans sa parole. Est-ce que vous pouvez imaginer quelques chaînes autour de chez vous, dans votre entreprise ? Là où vous rencontrez vos amis? Est-ce que vous pouvez imaginer vos enfants comme des chaînes en croissance? Vos petits-enfants? Seigneur, merci pour ces images que tu donnes dans ta parole. Seigneur, nous voulons voir davantage de ces chaînes de justice autour de nous. Aide-nous à contribuer à la croissance de ces chaînes. Fais-nous la grâce d'apporter nos gouttes d'eau, nos arrosoirs d'eau, pour permettre à ces chaînes encore de grandir. Seigneur, je prie que tu éveilles nos cœurs, et en particulier cette semaine, que tu éveilles nos intelligences, nos réflexions, nos émotions, pour donner, transmettre ta grâce, pour libérer ceux qui sont opprimés, pour accompagner ceux qui ont besoin d'être portés quelques pas plus loin, pour mettre nos pas dans tes pas, afin de pouvoir être à ton image, comme tu l'as été pendant ton ministère terrestre. Ô Seigneur, par ton esprit, fais cette œuvre aujourd'hui et cette semaine. Amen.